Professeur Rojo, pour votre magnifique présentation. Et bien sûr, parce que je vais avoir pas mal de questions, et donc la salle peut poser des questions. Et comme je vous l'avais dit, certaines personnes n'ont pas pu venir. Et donc...
Alors j'avais aussi à dire qu'on m'a demandé tout à l'heure, il y a un ouvrage que j'ai écrit dans lequel on retrouve beaucoup des informations que j'ai données. C'est la dernière édition 2015, mais déjà il y a des nouveautés, mais je crois une édition d'ici quelques années. Donc ça s'appelle Autisme, comprendre et agir. Et c'est, ça résume ma philosophie, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment ces personnes fonctionnent, quelles sont les difficultés qu'elles ont pour pouvoir adapter et les aider à agir, pas simplement se dire. C'est bien malheureux, ou attendre que, autrefois, on disait, il faut que ces enfants aient une émergence du désir, il faut qu'ils aient envie. Il faut peut-être savoir leur donner l'envie.
Facilité chez Duno. Alors.
Donc un aspect à la fois génétique et puis on retrouve l'autisme, mais il semblerait du moins que la prématurité ou les difficultés d'accouchement donc interviennent également dans l'émergence de l'autisme. Qu'est-ce qu'il en est par exemple de couples autistes qui ont des enfants? Est-ce que ça existe?
Alors c'est rarissime. C'est rarissime, mais je connais par la littérature un cas dans lequel il y a eu un enfant qui avait un développement apparemment assez ordinaire. Mais les personnes qui arrivent à être en couple et avoir une sexualité qui aboutisse, c'est rarissime et ça veut dire que là on touche... la frange la moins touchée quand même, parce que c'est compliqué les relations sociales, et donc les relations sexuelles c'est une partie des relations sociales qui demande quand même une compréhension assez fine des interactions, donc il y en a peu qui arrivent à ce niveau-là.
Tu pensais à Gilles et à sa compagne, oui, en particulier, oui. De façon franche.
Alors ils sont
est-ce
en couple.
C'est systématique.
Il y en a très peu qui fonctionnent comme ça. Et je dirais, je les ai reçus chez moi une fois parce qu'il y avait eu un problème avec un train. Et donc, la mère de Gilles savait que je le connaissais bien. Elle m'a appelée et je les ai logés. Bon. Ils ressemblaient à deux enfants qui faisaient du coloriage. Quoi. Je me demande ce qu'ils font au lit. Quoi. Je ne sais pas, je ne suis pas allée voir, mais vraiment, il y a une interaction qui est très infantile. Et donc, ils vivent ensemble, mais... vous savez, l'initiation à la sexualité, c'est une des grandes questions éthiques dans le domaine du handicap. Est-ce qu'on doit... Parce que ce sont des personnes qui ont des besoins physiques qu'ils ne peuvent pas identifier. Donc, c'est un vrai problème éthique. Mais c'est vrai que le cas est difficile. Mais dans ce cas-là, moi, je crois qu'ils n'ont pas de relation.
Il y a une question là-bas.
Oui.
Oui, bonjour.
Depuis Jean Piaget et d'autres, on a montré qu'en fait, à partir de compétences sensorimotrices initiales, l'enfant construit une intelligence pratique, puis de plus en plus abstraite, et construit des stratégies de planification et autres. Or, vous nous avez montré que les enfants autistes, dès le début, ont des troubles sensorimoteurs importants, et notamment sensoriels, et notamment dans le domaine de l'audition. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas émettre l'hypothèse, peut-être simplificatrice, que tous les troubles ultérieurs présentés serait la conséquence d'un développement sensorimoteur initial perturbé.
Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on ne peut pas résumer tout au développement sensorimoteur. Il y a eu plusieurs modèles de l'autisme à un moment. focalisait tout sur le langage et on disait c'est uniquement un problème de compréhension et de construction du langage. Après, il y a eu le modèle sensoriel où on disait tous leurs troubles sont liés au sensoriel. Et chaque fois, ces modèles-là sont incomplets. Et puisque on parle d'un trouble envahissant du développement, c'est-à-dire que vous avez raison, il y a un impact, hein, mais pas seulement dans ce domaine-là. Mais justement, j'ai parlé du modèle de Denver, et le modèle de Denver, il reprend, c'est un modèle développemental, et donc il reprend un petit peu les étapes du développement dans lesquelles on sollicite l'enfant à la fois sur le plan social et sur le plan sensorimoteur et sur le plan de la communication. Et on essaie de faire en sorte que tous ces aspects du développement puissent progresser ensemble. Mais il y a une part de vrai dans ce que vous dites.
Merci. Est-ce qu'il y a un lien entre autisme et hyperactivité ?
Oui, très clairement. Très clairement, c'est la pathologie la plus souvent associée. Hyperactivité, trouble d'attention avec hyperactivité. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on... Plus que de se centrer uniquement sur l'autisme, on parle de troubles neurodéveloppementaux parce que on sait qu'il y a plusieurs secteurs du développement qui sont touchés et donc il y a des associations. Et justement, troubles de l'attention avec hyperactivité, c'est l'association la plus fréquente. Et avoir la notion de trouble neurodéveloppemental et reconnaître cette association, ça permet de traiter les deux. Parce qu'autrefois, quand un enfant autiste était agité, on disait bah, c'est son autisme. Or, il a de l'autisme et il a aussi une hyperactivité. Et donc, il faut s'adresser à tous ses besoins. Et donc, quand on se situe dans ce domaine des troubles neurodéveloppementaux, on a une vision plus complète et on est plus à même de répondre aux différents besoins des personnes. Et en plus, au niveau du diagnostic précoce, bon, c'est vrai qu'on on a tendance à remonter le temps pour arriver au point de démarrage, mais en même temps, plus on remonte vers un âge précoce, et plus on a de risques de se tromper. C'est-à-dire qu'on va avoir un enfant qui a un retard, qui a peut-être une anomalie de langage, donc un trouble spécifique, ou qui a un autisme, voilà. Et donc on a un chercheur suédois qui s'appelle Christopher Gilberg, qui a développé un modèle de dépistage qui me paraît très intéressant, lui dépiste les troubles neurodéveloppementaux. Et seulement après, dans un second temps, il essaie de spécifier. Et souvent, il s'aperçoit qu'effectivement, il trouve beaucoup plus les associations parce qu'au lieu d'être focalisé sur une pathologie, on est focalisé sur l'ensemble. Et on est plus... Alors, moi, j'ai un rêve que j'aimerais bien réaliser. C'est de créer à Toulouse un institut des troubles neurodéveloppementaux sur ce modèle que préconise Gilberg. Parce qu'on a, des collègues vraiment éminents qui travaillent très très bien à Toulouse et les forces, me semble-t-il, sont vraiment dispersées. On a un CRA, Centre de ressources humaines. On a un centre des troubles du langage et troubles des apprentissages, excellent aussi, et on a un trouble, on a un centre expert sur le Prader-Willi, a été ouvert. Et donc on a des gens qui sont très compétents, qui sont à des endroits différents. Moi j'ai vu quand je suis allée en formation au Mind Institute à Sacramento, en Californie, les parents, il y a des parents qui ont réussi à lever des fonds très importants pour créer ce Mind Institute et donc tous les troubles neurodéveloppementaux sont représentés. Il y a tous les spécialistes. Et donc, il y a la partie clinique où on reçoit les gens, où on fait les diagnostics. Et il y a la partie recherche avec un plateau technique extraordinaire. À mon avis, c'est ça l'avenir.
Juste tout d'abord une remarque, c'est que l'explosion de caractéristiques, ça c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, donc ça c'est une chose qui est extrêmement importante. Deuxième chose à laquelle je pense, là vous écoutant, il y a l'autre pendant de l'existence, là. Il y a l'autisme et la maladie du développement. Et il y a des maladies de la sénilité, pas mal de démences séniles qui me rappellent assez certains types de symptômes qu'ont ces enfants. Alors on peut se demander, est-ce qu'éventuellement, il ne faudrait pas voir les deux faces, puisque dans la démence, dans les démences séniles multiples, multiformes, rien, l'hypermobilité, le décrochage social, il y a plein de choses qui sont assez intéressantes et qui rappellent ce que vous dites.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et vous savez, quand on parle de psychopathologie développementale, quand on parle de développement, on a une vision qu'on appelle lifespan, c'est-à-dire toute la vie. Et donc, c'est vrai, il y a des processus développementaux pendant toute la vie. Et ben, malheureusement, au bout de la vie, ça décline, c'est le développement à l'inverse. Et donc, on retrouve, c'est vrai que je pense qu'on aurait intérêt à mettre ensemble les chercheurs qui travaillent sur toutes les pathologies du vieillissement et toutes les pathologies du développement de l'enfant. Ça, c'est dans une autre vie, parce que moi, j'arrive à la fin de ma carrière, mais c'est vrai qu'on peut donner les idées pour les jeunes qui arrivent.
Sur un plan un peu différent, un de vos collègues de la retraite de l'université de Jean Jaurès, comment, autre question, comment expliquer que la France soit restée si longtemps hostile aux innovations éducatives bien acceptées et largement validées en Amérique?
Alors, c'est l'influence du modèle psychanalytique et la singularité française. Voilà. Il y a eu pendant longtemps ce modèle psychanalytique donc, qui a été développé par Bettelheim, hein, et nous on a pris le train en marche des années après, et puis les gens ont continué dans cette voie-là sans s'ouvrir à l'international, sans s'ouvrir aux informations qui venaient, qui s'accumulaient pour montrer que ce n'était pas une pathologie réactionnelle. Et donc, voilà, il y a eu un manque d'ouverture sur les informations scientifiques à l'international, et peut-être une attitude influencée par une idéologie, hein, il faut dire ce qu'il y a, parce que bon, c'est comme ça, et on ne regarde pas ce qu'il y a à côté. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui ont souffert de ces approches-là. Et pendant longtemps, moi, au début de ma carrière, j'étais très malmenée. Quand je suis revenue des États-Unis, que j'étais toute contente d'avoir découvert des choses et d'avoir envie de faire des choses pour aider les personnes, mais j'ai été insultée, malmenée, voilà. Parce que c'était l'idéologie dominante, c'était la psychanalyse.
Mais la corrélation de sa deuxième question, c'était un peu la même chose. Est-ce que les partisans du modèle psychanalytique sont-ils unanimement et si farouchement opposés au modèle actuellement de développement?
Non, pas tous. Pas tous. Il y a des psychanalystes ouverts, il y a des gens qui... moi, j'ai un bon exemple, c'est l'ancien patron de mon laboratoire, qui est le professeur Henri Stuhlmann, qui est psychanalyste, qui m'a accueilli dans son laboratoire en sachant que je n'allais pas faire de la psychanalyse et que je n'allais pas faire semblant d'en faire. Hein. Il avait vu mon dossier, il savait très bien. Et donc, il m'a accueilli dans son laboratoire et on a travaillé, pas ensemble, mais on a vraiment sympathisé, on a chacun fait nos travaux. Et un jour, il m'a dit... les psychanalystes se sont plantés en matière d'autisme. Lui reconnaissait que de nouvelles connaissances étaient disponibles et que la psychanalyse peut peut-être être intéressante dans d'autres domaines, mais pas dans celui-là.
Bien, je crois qu'on peut vous remercier. Ah, une question.
Oui. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un comportement, pardon ?
Près du micro.
Près du micro, oui. Comment peut-on faire la différence entre un comportement dont vous parliez de femmes qui avaient l'air, entre guillemets, d'être qui sont adaptées, mais qui avaient simplement l'air d'avoir de l'empathie alors qu'apparemment elles n'en ressentaient pas ? Et comment on peut faire la différence entre ces personnes-là et puis les personnes qui auraient appris l'empathie grâce à l'éducation que on peut leur donner à travers le procès d'Anvers et compagnie. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas qu'est-ce qui fait la différence entre...
Il n'y a pas grande différence à partir du moment où cet apprentissage, il est tardif. Parce que... Alors, la question était comment est-ce qu'on peut faire la différence entre ces filles qui essaient de se couler dans un moule social en imitant, en regardant, en observant, et donc qui passent inaperçues, qui ne sont pas diagnostiquées, et les personnes à qui on apprend l'empathie. Alors, moi, je réponds, quand l'apprentissage est tardif, de toute façon, et quelque part, il est un peu plaqué. Parce que l'émotion, l'empathie, c'est normalement c'est quelque chose qu'on n'apprend pas.
Et oui, c'est ça.
On n'apprend pas. Et donc quand on l'apprend systématiquement, ça donne un côté un peu artificiel et plaqué. Ça peut aider, mais c'est pas tout à fait le comportement naturel. Et donc ce qui est intéressant, c'est l'intervention très précoce dans laquelle on n'apprend pas l'empathie en faisant des exercices, mais on l'apprend dans l'interaction, c'est-à-dire in vivo. On essaie de restaurer le phénomène émotionnel plutôt que de plaquer un apprentissage.
Voilà. Et on y arrive ?
Avec les petits, oui. Je ne dirais pas tous, parce que en matière d'autisme, il faut être modeste, parce que on sait bien qu'on ne connaît pas tout et qu'on n'a pas de remède vraiment. Il y a des enfants qui répondent bien et d'autres qui répondent moins bien, malheureusement.
Est-ce que ça dépend de l'environnement dans lequel ils font ces apprentissages et tout ça ?
Ça peut dépendre en partie de l'environnement dans lequel ils font l'apprentissage. Et nous, on donne un environnement vraiment enrichi sur le plan sensori-moteur, comme on évoquait tout à l'heure, mais en même temps émotionnel, et on ne sépare pas tout ça. C'est-à-dire on travaille tout ça en même temps. On essaie de restaurer un peu une situation telle que celle que connaissent les enfants ordinaires. Donc comme ça ne se fait pas naturellement, on force un peu la note, on enrichit, et on essaie de faire en sorte que les enfants avec autisme retrouvent un environnement qui est celui des enfants ordinaires, c'est-à-dire qu'un enfant ordinaire, à partir du moment où il se lève, il est réveillé, enfin, tout son temps d'éveil, il est stimulé. Il est stimulé, même si on le laisse dans son parc tout seul, lui, il va prendre l'objet, il va le faire rouler, il va expérimenter, et ses enfants n'ont pas naturellement cette tendance. Et donc nous, on va suppléer et on va faire des expériences, et surtout on va enrichir sur le plan social pour faire en sorte que l'enfant ait envie d'apprendre avec nous.
Je voulais vous demander, est-ce que ces enfants autistes sont malheureux ?
Alors, je pense que chez les enfants avec autisme, il y a aussi des bonnes natures. Il y a des, moi, j'en connais qui sont joyeux, qui, tout en ayant des difficultés, ont une espèce de joie de vivre, et on s'en réjouit. Mais on en a beaucoup pour qui, vraiment, on a du mal à voir ce qu'ils ressentent. Mais on voit quand même certaines gravités, certaines souffrances quand il y a des grands troubles du comportement. Et je parlais des personnes avec autisme qui arrivent à l'adolescence et qui se rendent compte de la difficulté, parce qu'on disait la difficulté à apprendre l'interaction. Nous, on nous a pas appris pas à pas à parler avec quelqu'un, à respecter le rythme d'une conversation, à imiter, à comprendre les émotions des autres. Tout ça, c'est très compliqué. Et donc, quand une personne est démunie à ce niveau-là, et quand elle a une bonne intelligence, elle se rend compte qu'elle est vraiment... Il y a un taux de suicide quand même assez important chez les personnes avec un bon niveau intellectuel. Voilà. Et il y a même des personnes qui sont déficitaires et dont les troubles du comportement, à mon avis, traduisent de la dépression. C'est une autre forme d'expression. Ils ne savent pas le dire en mots, ils ne savent pas, mais on voit qu'ils sont malheureux et qu'ils souffrent.
A-t-on quelque idée de la plus grande fragilité des garçons, enfin, du sexe masculin, face à l'autisme ?
Pardon,
A-t-on
j'ai pas
quelque fait... idée ah, de la plus grande fragilité des garçons face à l'autisme ?
Pourquoi les garçons ?
Tout à l'heure, vous disiez, par exemple, les garçons, il y avait 4 garçons.
Oui. Je n'ai pas entendu le début de votre phrase, donc j'entends la fin, mais pas le...
D'accord. A-t-on quelque idée de ce qui cause la plus grande fragilité ?
Ça y est, j'ai compris.
Que les garçons sont plus fragiles que les filles.
C'est sans doute génétique et lié aux 2 chromosomes. Chez la fille, il y a une protection... par les 2, il y a XX et chez le garçon c'est XY, et donc s'il y a une anomalie, il y a moins de possibilités de protection. C'est ce qu'on pense. Et pour toutes les pathologies, on parle beaucoup de cette fragilité plus grande des petits garçons dans le développement.
Est-ce que les médicaments que l'on donne, aux hyperactifs, et après, puisque c'est très lié, on est des concentrateurs, ont un effet négatif sur l'évolution de l'adolescent, par exemple.
Alors, je n'ai pas de données précises là-dessus, mais je sais que la Ritaline, vous faites référence à ça, le méthylphénidate, peut avoir des effets intéressants sur l'hyperactivité chez certains enfants, pas sur d'autres malheureusement. Là aussi, c'est très inégal. Et après, je n'ai pas connaissance d'études qui aient suivi. Ça serait intéressant, évidemment, quand on commence à donner des médicaments. On fait attention quand même de ne pas donner avant 6 ans ce type de produit. Puisque c'est un produit qui, normalement, est un psychostimulant. C'est-à-dire que l'hyperactivité, dans certaines formes, c'est un trouble de l'attention, c'est-à-dire on considère que la personne a une attention basse et qu'il faut faire monter le niveau de vigilance et, paradoxalement, apparemment, mais ça se comprend, le comportement se calme. Et donc il y a des enfants avec lesquels ça marche très très bien. Et d'autres... Alors, la durée de vie de cette molécule n'est pas très importante, donc il y a des gens qui font le test, et si ça ne marche pas, ils arrêtent, et ça n'a pas de grandes conséquences. Par contre, à long terme, je ne sais pas.
Est-ce que
les crises
d'épilepsie répétées peuvent être entraîner des effets encore plus négatifs sur l'autisme de l'enfant?
Oui, donc on me demande si les crises d'épilepsie répétées peuvent avoir un effet d'aggravation sur l'autisme de l'enfant. Oui, certainement, parce que c'est vraiment une perturbation au niveau cérébral qui ne peut qu'aggraver. Moi, j'ai la connaissance d'une...
Il faut s'arrêter là, parce que c'est 7 heures. Je vous remercie.